À Bamako et à Ouagadougou, 22h à Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec le rapport publié conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. 700 millions de personnes manquent toujours d'accès à l'eau potable, dont la moitié en Afrique subsaharienne. Nous serons au Faso pour notre dossier.
Dans la vie, je lutte comme ce que je fais ici. Ça représente beaucoup de choses pour moi, quoi. J'aime terrasser, je m'entraîne tout le temps pour que je sois la meilleure.
Le Burkina Faso, où nous découvrirons des femmes pratiquant la lutte gréco-romaine, un sport de combat qui est symbolique d'une certaine émancipation des femmes. Enfin, nous finirons l'émission par le Nigeria, où le soutien de Michelle Obama, suite aux enlèvements de près de 300 jeunes filles, a été particulièrement apprécié. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Au micro, Idrissa Sidoudia, Amnesty International affirme que les forces de sécurité nigérianes savaient qu'une attaque se préparait contre l'école de Chibok, où des centaines de jeunes filles ont été enlevées le 14 avril par Boko Haram. Le point, Lionel Gahima.
Les forces nigérianes auraient été averties 4 heures à l'avance, selon Amnesty International, qui leur reprochait de n'avoir pas agi alors qu'elles étaient au courant des intentions de Boko Haram. L'Association de défense des droits de l'homme dénonce l'incapacité des autorités à mobiliser ses troupes, notamment en raison de leurs faibles ressources pour faire face à des djihadistes souvent mieux armés. Le gouvernement n'a pas encore répondu à ces accusations. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour tenter de retrouver les centaines de lycéennes kidnappées depuis la mi-avril. Abuja offre 300 000 dollars pour toute information conduisant à sauver ces jeunes filles. Plus de 10 officiers de l'armée américaine sont arrivés au Nigeria pour appuyer leurs recherches. Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement des adolescentes et a menacé de les vendre sur le marché.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son ancien vice-président Riek Machar se retrouvent dès aujourd'hui dans la capitale éthiopienne pour tenter d'aplanir leurs dissensions. En RCA, la Séléka tient son congrès à Nélé, dans le nord du pays. Tous les généraux sont sur place. En principe, les débats vont se poursuivre jusqu'à demain. L'ONU annonce la naissance d'un nouveau groupe armé au nord Kivu, en RDC, le PPH, Protection du Peuple Hutu, c'est ce qu'indique l'AFP, citant un porte-parole onusien à Goma, la capitale du Nord Kivu, où s'activent déjà plusieurs dizaines de milices. Au Cameroun, l'ancien ministre Henri Ngoulou est décédé hier dans une prison de Yaoundé. Il était en détention préventive depuis 2010. Après 4 ans d'emprisonnement sans jugement, il est mort dans le dénuement accusé de détournement de fonds. Il n'avait plus de quoi payer ses avocats. Pour sa part, Pierre-Désiré Engo, ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, a été libéré hier soir. Emprisonné depuis 1999 pour détournement de fonds, il a pu bénéficier de la grâce présidentielle. Accident d'hélicoptère au large du Ghana. On compte au moins 3 morts. L'hélicoptère qui transportait 8 personnes s'est abîmé en mer hier. 4 personnes ont pu être secourues et 1/5 est portée disparue. Les passagers travaillaient sans doute dans le secteur pétrolier. En Afrique du Sud, le Congrès national africain devrait rester au pouvoir après une victoire confortable aux législatives de mercredi. Le dépouillement du scrutin est presque terminé et la commission électorale annonce 62% pour l'ANC, le parti de Nelson Mandela et de l'actuel président Jacob Zuma.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Vladimir Poutine s'est rendu en Crimée ce vendredi 9 mai qui marque la commémoration de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que le président russe se rend dans ce territoire annexé par Moscou en mars. Il s'est adressé à des anciens combattants et des officiers dans le port de Sébastopol, siège de la flotte russe en mer Noire. Auparavant, à Moscou, M. Poutine avait passé en revue 11 000 soldats défilant sur la place Rouge pour la parade annuel. Signalons enfin un léger tremblement de terre dans le sud du Pakistan. Plusieurs villages ont été affectés. Le bilan provisoire est d'un mort et 50 blessés. L'épicentre se situait à 12 km au nord de la ville de Nawabshah. Le séisme mesurait 4,3 sur l'échelle de Richter.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission par ce rapport publié conjointement par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'UNICEF. Les deux organisations onusiennes ont décidé de conjuguer leurs efforts pour un meilleur accès à l'eau potable et la création de meilleurs systèmes d'assainissement. Les explications de Michel Joseph.
Des progrès importants ont été faits depuis 1990. Presque 2 milliards de gens ont accès à des installations sanitaires améliorées et 2,3 milliards d'autres à de l'eau potable, dont 1,6 milliard avec de l'eau courante à domicile. En revanche, a fait remarquer le docteur Maria Neira, directrice de l'OMS pour la santé publique et l'environnement, plus de 700 millions de personnes manquent toujours de sources d'eau potable et la moitié vit en Afrique subsaharienne. Et plus d'un tiers de la population globale, soit 2,5 milliards de personnes, n'utilisent pas des services d'assainissement améliorés et 1 milliard d'entre elles défèquent encore à l'air libre. C'est ainsi que pour contrer de telles tendances, l'UNICEF a lancé une campagne en Inde, en collaboration avec le gouvernement de New Delhi. Des efforts similaires sont faits par les gouvernements de plus de 80 pays. Les mauvaises conditions d'hygiène publique et les eaux contaminées aident à propager des épidémies comme le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A et le typhus. Selon l'OMS et l'UNICEF, rien que la diarrhée tue 842 000 personnes par an. Les disparités entre milieux urbains et ruraux continuent d'exister, mais des progrès ont été faits pour combler le fossé. Enfin, lit-on dans le rapport, 116 pays ont atteint un des objectifs du millénaire pour le développement, c'est-à-dire réduire de moitié le nombre de gens sans eau potable d'ici à 2015. 77 ont réalisé l'objectif de l'accès aux services d'assainissement et 56 ont atteint les deux objectifs.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 95.5 FM à Dapaong, au Togo, sur la radio Courtoisie. Nous sommes donc au Burkina Faso pour notre dossier, le Faso où nous allons découvrir aujourd'hui la lutte féminine. La lutte gréco-romaine, qui fut longtemps réservée aux hommes, a été l'une des 5 premières disciplines olympiques. La lutte féminine, elle, n'a eu les honneurs olympiques qu'en 2004. Au Burkina, si les lutteuses inspirent parfois de la crainte, particulièrement de la part de la gente masculine, elles sont aussi le symbole d'une vraie émancipation des femmes. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Zoumana Wonogo.
Des femmes dans les arènes de lutte, c'est cette particularité qui donne à ce sport de combat au Faso son petit piment attractif. Suivons les explications de Pierre Badiel, le président de la FBL, Fédération Burkinabé de lutte.
Nous avons compris que la lutte n'est pas seulement l'apanage des hommes. Et voilà pourquoi on a initié même un championnat national de lutte féminine. Et toutes les filles doivent comprendre que la lutte n'est pas que pour les hommes. Et vous avez vu que les filles qui ont lutté aujourd'hui, elles ont utilisé tout le corps, les jambes et tout. Ça veut dire que les filles peuvent lutter comme les hommes. Et elles peuvent s'en sortir, elles peuvent aller au niveau international. Donc nous, on demande aux filles de continuer à lutter, de venir à la lutte.
La lutte féminine au Faso a une longueur d'avance sur les pays traditionnellement connus dans le domaine en Afrique de l'Ouest, nous a dit Nicolas Paré, formateur d'enseignants d'éducation physique et sportive, l'homme par qui tout a commencé. On écoute son histoire.
D'abord, en tant que premier enseignant spécialiste de lutte, je me suis battu pour qu'on introduise l'enseignement de la lutte à l'INGEPS. Ça, c'est d'un. Et de deux, dans les instructions officielles, la lutte est en bonne place en tant que sport national. Et les filles, ça les aide à s'épanouir face aux garçons. Parce que les problèmes de la vie n'est pas dit que tel problème est pour la fille et l'autre problème pour le garçon. Le Burkina a été le premier à initier un championnat national féminin il y a de cela une dizaine d'années. Les Sénégalais, ils l'ont pris chez nous. Et les Nigériens, ils ne sont pas encore dedans. Parce que bon, il y a les aspects sociaux, culturels qui sont là, qui se posent. Donc ça fait que nous sommes les pionniers dans ce domaine. Et elle est vulgarisée au niveau des établissements. Parce qu'à l'heure actuelle, et depuis 90 que j'enseignais à l'Institut, il y a plus d'une quarantaine d'enseignants DPS optionnaires lutte. En leur enseignant la lutte, on n'a pas dit que c'était pour les hommes seulement. Ne soyez pas surpris de retrouver des filles aujourd'hui. La plupart sont des scolaires, effectivement, surtout au niveau des poules jeunes. Cela se comprend. C'est le travail qui a été fait antérieurement et c'est le résultat qui est en train de donner. Et si Dieu le veut bien, je crois qu'on aura une avance sur le Niger et le Sénégal, n'en parlons pas des autres pays, en matière de lutte féminine. J'ai regretté pourquoi le Burkina n'avait pas inscrit la lutte féminine au jeu de la francophonie à Nice passé, parce qu'on avait des chances de médailles.
Après cette historique, descendons dans l'arène avec Ami Boukoum Ditou Rougeau en raison de son teint, juste après qu'elle ait gagné son combat. Cette lutteuse nous dit les raisons de son choix. Suivons Ami Boukoum.
Je suis très contente et puis j'espère que mes parents vont être satisfaits. Je veux être une lutteuse professionnelle de Bobo Dioulasso et aider les autres femmes. Elles vont aimer ma façon. Dans la vie, je lutte comme ce que je fais ici. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Quoi. J'aime terrasser, je m'entraîne tout le temps pour que je sois la meilleure.
Autour de l'arène, on entendait des hommes se demander si une lutteuse du genre ne va pas terrasser un jour son mari. Alors, la question directe posée à la lutteuse Ami Boukoum est « Êtes-vous capable de terrasser votre mari ?» Voici sa réponse sans équivoque.
Yeah, non, je ne peux pas terrasser les hommes. Je ne veux rien faire là, parce que c'est mon mari. Puisque je dois le respecter. Quoi. Même s'il me frappe, même si... Je peux le combattre, je vais le laisser me battre.
En écho à la question rapport conflictuel avec son homme, la lutteuse Balkissa Ouattara a dit ceci.
Ils disent qu'après c'est pour taper le mari, mais c'est pas ça, c'est juste un support qui me plaît. J'ai essayé de me défendre, mais je n'ai pas le frappé.
Nous avons recueilli aussi l'avis des spectatrices et sur la lutte féminine et sur la gestion des bagarres de couple. On les écoute.
Ça veut dire que ce n'est pas les garçons seulement qui doivent lutter. Les filles aussi peuvent lutter. Je ne lutte pas. Je suis venue pour regarder. C'est très bien. Je la félicite même. Elle peut terrasser les garçons.
Je trouve que c'est bien. Ce n'est pas mal qu'une fille lutte. Non, ce n'est pas une affaire de garçon.
Est-ce qu'au village, les femmes ne se font pas la bagarre?
On se frappe correctement, non?
Ah donc? Du même type que les hommes se frappent, donc les femmes aussi peuvent se faire la lutte là comme ça. Hein? Je ne trouve pas d'inconvénient.
Bon, on n'a pas forcément besoin d'être costaud. Il y a des gens qui ont compéti ici. Ils sont maigres comme moi ici. Mais ils ont pu quand même se débrouiller bien là. On n'a pas besoin forcément d'être costaud. Mais il y a des femmes aussi costauds, hein.
Moi, je n'aime pas me battre. C'est ça le problème, quoi. J'aime d'autres sports, mais la lutte, c'est pas mon fort. Il faut que chacun sache là où il faut se mettre, quoi.
Moi, ce que j'aime, c'est... comment dirais-je, les acrobates, là. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Et puis, la gymnastique que j'aime faire.
Sur ce même sujet, le président de la fédération de lutte coupe la poire en deux. On écoute Pierre Badiel.
Quand ils luttent, il y a des garçons qui sont en forme parce qu'ils veulent des filles qui sont viriles et très fortes. C'est vrai qu'elles n'ont pas une longue carrière parce que dès qu'elles se marient, bon, difficilement, le mari n'accepte plus qu'ils aillent lutter.
Josiane Nabi, elle, aime la lutte parce que tout simplement, c'est un sport. Avant son combat, elle nous avait promis de gagner. Elle l'a fait. On écoute Josiane Nabi.
Vainqueur, Nabi Josiane de Bulkembe.
J'ai gagné, monsieur. Ah, oui. Ah, oui. J'ai eu peur, mais j'ai gagné. Oui. Ah, je suis contente. Je vais les encourager de venir lutter, que c'est très intéressant.
La lutte a pris des galons au Faso. Toutes choses qui encouragent les parents à diriger leurs enfants vers ce sport. Voici l'avis de Jean-Golbert Idini. Il est le papa d'une lutteuse.
Comme je suis avant là, les femmes ne luttent pas, mais maintenant, femmes luttent, c'est bon. Moi-même, j'ai lutté. Avant là, nous lutte là, bon, il n'y a pas d'argent dedans. C'est dans seulement et tout le monde est content. Mais maintenant, lutte là, il y a quelque chose dedans. Il faut encourager les enfants.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique et sur le 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Direction le Nigeria pour finir l'émission. Le Nigeria, où le soutien de la première dame des États-Unis, Michelle Obama, suite aux enlèvements de jeunes filles par le groupe terroriste Boko Haram, a été très apprécié. Michelle Obama a posté sur les réseaux sociaux une photo avec le slogan « Bring back our girls », autrement dit « Ramenez-nous nos filles », ce slogan qui fédère tous ceux qui se disent indignés par la situation. Toutefois, certains analystes craignent que cette implication américaine ne complique davantage les efforts en vue de secourir les collégiennes kidnappées. Darina Naidoo nous en dit davantage.
Hors d'une salle de conférence bondée, Aouna Ali, sourire aux lèvres, manipule son téléphone portable. L'appareil affiche une photo de Michelle Obama brandissant une affiche marquée « Hashtag rendez-nous nos filles ». La journaliste et mère de famille font en larmes et expliquent pourquoi.
It's just wonderful, Michelle doing it, you know, standing in the White House.
C'est tout simplement merveilleux que Michelle le fasse à la Maison Blanche. C'est tout simplement ahurissant. Malgré l'horreur déjà vécue, avec les milliers d'assassinats perpétrés par Boko Haram ces 5 dernières années, le kidnapping des collégiennes constitue un choc pour le Nigeria. Les femmes ont organisé des manifestations à travers tout le pays, rejointes par des activistes en ligne via le lien Twitter, hashtag rendez-nous nos filles. Les Nigérians n'ont jamais été aussi décidés, toujours selon Aouna Ali, pour crier leurs besoins de sécurité. Le tweet de Madame Obama prouve qu'ils ont finalement été entendus.
We now have this feeling that we're not alone in this fight.
Nous avons maintenant le sentiment de ne pas être seuls dans cette bataille. Les femmes ont maintenant une voix et notre voix a été entendue, pas uniquement au Nigeria, mais dans le monde entier, se réjouit Aouna Ali. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine ont offert leur assistance pour retrouver ces filles, une offre acceptée par le Nigeria. Cependant, certains spécialistes des questions sécuritaires craignent que l'implication étrangère ne fasse plus de mal que de bien. Si jamais il y a libération des collégiennes, ce serait seulement grâce à l'aide des communautés locales. Sans forces occidentales, Martel Ad Ogundeyin, responsable de ProForce, une compagnie spécialisée dans la construction de véhicules blindés et d'équipements militaires.
We have to be very, very careful. This is a typical Nigerian situation.
Nous devons faire très très attention. Ceci est une situation typique au Nigeria. Et s'il y a escalade, oui, ils pourront retrouver les filles, mais toutes mortes. Boko Haram signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Et le leader du groupe Aboubakar Shekau menace régulièrement de mort tout Nigérian qui s'associe à l'Occident.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Brian Marcoulier. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la Nigériane Assa pour son titre No One Knows. He who they live for peace, equality and truth. They live with life with ease and in ways believe in proof. When I wake up early in the morning, I know I'm blessed as a man can be. Rendez-vous lundi 21h temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter VOA Sahel Plus. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.
For better days, and if you think it's wrong, then make you show me better ways. Life is hard, we know they're happy, but they try to get away. You can't say on the other side there is a better place. Tomorrow you go back, you're tense and plan to head that way. The sky is kinda cloudy, so you think you better stay. We keep on waiting for tomorrow, but it seems it never comes Procrastinates, we wait, so the job is never done, it's never done. They say rainbows apologize for angry skies. Through rain, God blesses us when he cries. We can make the best of all we holler when we try. It's inspirational, I'm charged with aspirations and dreams to follow. And leave behind my life troubles and all my sorrows. And live today, cause no one knows tomorrow. No, no, no.